Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons une nouvelle série. Et nous sommes donc à l'étude numéro 1. Est-ce que la Bible se contredit au sujet de la famille? Les enfants deviennent ce que leurs parents en font, ou ce qu'ils choisissent d'être. Voyons cela selon les textes bibliques. Proverbe, chapitre 22, verset 6, nous dit « Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et prenons Ézéchiel, chapitre 18, verset 5 jusqu'au verset 10. L'homme qui est juste, qui pratique le droit et la justice, qui ne commet pas de vol, s'il engendre un fils, qui soit un brigand, qui répand le sang. Alors nous avons là deux textes totalement différents. Chers amis, un vieil homme était rempli de remords et de culpabilité à cause de la condition spirituelle d'un de ses fils. Sa femme et lui avaient élevé 5 enfants, dont 4 faisaient leurs délices. Ils avaient été des parents pleins de piété et montrant le bon exemple à leur progéniture. Mais un de leurs enfants, bien qu'ayant réussi sur le plan financier, avait totalement rejeté ce que ses parents lui avaient enseigné et n'avait laissé aucune place pour Dieu dans son cœur. Cela me fait penser à un drame authentique qui a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, une ville à 1000 mètres d'altitude, appelée aussi la ville horlogère de la Suisse. Et le père était pasteur de l'église protestante et sa femme également très impliquée dans la paroisse. Ils ont élevé une fille selon les critères bibliques, sans exagération, mais tout à fait honnêtement. Or, quand elle est allée faire ses études à l'université de Neuchâtel, malheureusement, elle s'est fait détourner par une équipe peu recommandable aussi de l'université. Plus tard, elle est allée aux Indes, dans un ashram, et là, elle est devenue une loque, droguée, et une fille de joie qui vendait son corps très jeune et pourtant qui était prévu pour une vie toute différente. Cela a assez mal fini puisque on a dû la rapatrier depuis les Indes en Suisse dans un état. Je ne peux pas vous dire exactement l'état délabré dans lequel elle se trouvait. Le père, en la voyant ainsi, le soir même, il est allé au grenier et il s'est pendu. Cela a été un drame pour toute la région. ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Le Père, citant des passages comme Proverbe chapitre 22, verset 6, sentit que d'une certaine manière, il avait failli. Sa femme, bien qu'étant aussi malheureuse que lui, refusa de se laisser aller à la culpabilité et essaya de convaincre son époux qu'il n'était pas à blâmer pour la conduite fantasque de leur fils. Elle lui montra que des passages tels qu'Ézéchiel 18 illustrent la possibilité qu'un fils rejette l'enseignement et l'exemple paternel, quelquefois pour son bonheur, mais aussi quelquefois pour son malheur. Le père disait, les enfants deviennent ce que les parents en font. La mère insistait, non, ils deviennent ce qu'ils ont choisi d'être. Les enfants deviennent ce que les parents en font. Voyons cela de plus près. Premièrement, de petits enfants formés dans la voie de Dieu marcheront dans le droit chemin lorsqu'ils grandiront. Proverbe chapitre 22, verset 6. Deuxièmement, les enfants corrigés avec justesse seront délivrés de l'égoïsme qui est leur tendance naturelle. Proverbe chapitre 22, verset 15. Troisièmement, des enfants tenus avec affection dans la discipline deviennent spirituellement sages, alors que ceux à qui est laissée une liberté sans restriction moissonneront la honte. Proverbe chapitre 29, verset 15. Quatrièmement, des enfants correctement élevés feront l'honneur de leurs grands-parents, selon le Proverbe chapitre 17, verset 6. Voyons une autre phrase. Les enfants deviennent ce qu'ils choisissent d'être. C'est ce que son épouse disait à son mari. Premièrement, un enfant, quel que soit son environnement familial, peut choisir d'être soit malhonnête et paresseux, soit honnête et productif. Proverbe chapitre 10, versets 4 et 5. Deuxièmement, un enfant, quelle que soit son éducation, peut choisir d'aimer la sagesse ou la compagnie des impies. Proverbe chapitre 29, verset 3. Et troisièmement, les enfants qui se révoltent et se détournent des voies pieuses de leurs parents seront jugés par Dieu. Mais ceux qui se détournent des voies coupables de leurs parents pour suivre Dieu recevront sa récompense. Ézéchiel chapitre 18, verset 2 jusqu'au verset 18. N'hésitez pas à noter les citations bibliques pour que vous puissiez vérifier qu'on vous dit uniquement la parole de Dieu telle qu'elle est. Quelques explications. Bien que le Proverbe 22, verset 6, ainsi que Ézéchiel chapitre 18, semblent se contredire à première vue, ces passages sont en réalité complémentaires. Ils s'équilibrent l'un l'autre. Le verset de Proverbe chapitre 22, verset 6, insiste sur la responsabilité parentale dans l'éducation des enfants. Il exprime le principe que l'enfant, amené dans les voies du Seigneur, portera l'empreinte indélébile de leur éducation au point qu'il ne pourra plus s'en défaire. Ézéchiel 18, par contre, nous rappelle cependant aux enfants, comme également aux parents, que chacun est individuellement responsable devant Dieu pour ses propres actions. Les parents pouvant intercéder pour leur enfant, chacun d'eux devra néanmoins rendre compte lui-même à Dieu. Résolution. En règle générale, les enfants ayant reçu une bonne instruction et un bon exemple choisira le bon chemin, mais certains peuvent se détourner de Dieu. Application. Les parents pieux, profondément sérieux, donneront à leurs enfants de nombreuses raisons et encouragements pour choisir la voie de Dieu. Les parents qui constatent que leur fils ou leur fille est sur le mauvais chemin devraient reconnaître l'élément de liberté individuelle et se débarrasser des faux complexes de culpabilité et non pas finir comme ce cher pasteur à La Chaux-de-Fonds en Suisse qui est allé au grenier, au Galtas, suivant les terminologies, pour aller se pendre, pour aller se suicider. Oui, c'est dramatique. C'est vrai. La femme mariée doit-elle travailler à la maison ou à l'extérieur de la maison? Ça aussi, c'est un dilemme très sérieux et parfois ça donne des problèmes. Afin d'apprendre aux jeunes femmes les soins domestiques, notez Tite, chapitre 4, versets 2 et 5. Je veux que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. 1 Timothée, chapitre 5, verset 14. Parallèlement, nous avons le Proverbe chapitre 31, verset 16 jusqu'au verset 24, qui nous dit « Elle réfléchit à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle fait des chemises et les vend. Et livre des ceintures aux marchands. » Marie dirigeait un rayon dans un grand magasin de vêtements. Trois enfants lui sont nés. Les deux aînés sont maintenant scolarisés et elle pense engager une nourrice pour retourner travailler, ce qui ferait un rapport d'argent supplémentaire pour le foyer. Cependant, son mari ne veut pas qu'elle retourne travailler à l'extérieur. Il connaît bien des familles, et comment, où la tension d'une mère qui travaille dur cause toutes sortes de problèmes. Il pense que les enfants ont besoin que leur mère soit présente quand ils rentrent de l'école. Ils préfèrent se passer de certaines choses et avoir une femme au foyer à plein temps. Mais Marie aimait son travail et elle souhaite avoir un revenu supplémentaire. Elle est impatiente de reprendre son poste. Elle pense qu'il est possible et autorisé à une maman chrétienne de remplir la double fonction de mère et de salariée. Explication. L'apôtre Paul, interpellé par le témoignage chrétien des jeunes femmes, conseille à Tite de demander que les aînés de l'Église enseignent à leurs cadettes à être des épouses et des mères aimantes, discrètes, pures, occupées à la maison et respectueuses de leur époux. Chapitre 2, verset 5 de Tite. La raison pour laquelle il donne ses instructions est peut-être sa peur que certaines femmes élevées au statut de l'égalité spirituelle par rapport aux hommes soient tentées de déconsidérer le rôle de mère et le rôle d'épouse que Dieu leur a confié. De même, il dit à Timothée que les jeunes veuves, au lieu de devenir, on peut dire, d'oisives commères et des empêcheuses, devraient fortement penser à se remarier et à avoir des enfants et à tenir leur maison. 1 Timothée, chapitre 5, verset 14. Le chapitre 31 de Proverbes, versets 10 à 31, notez bien, nous fait le portrait d'une maman et d'une épouse qui est très occupée de son intérieur. Versets 11 à 15, versets 21, versets 22 et le verset 27. On a dit le chapitre 31 des Proverbes, n'est-ce pas? Mais elle trouve également le temps d'acheter un terrain et de s'investir dans la plantation d'une vigne, selon le verset 16, et de donner aux nécessiteux de sa communauté, verset 20, et de coudre des vêtements qu'elle vend au marché, verset 24. Résultat, elle fait les délices de ses enfants et de son époux, versets 28 et 29. Résolution. La première responsabilité d'une femme mariée est d'entretenir et d'organiser sa maison pour ses enfants et son époux. Mais elle peut sortir de la maison pour vénérer le Seigneur, pour aider les malheureux et améliorer les conditions pécuniaires de la famille. Application. Premièrement, la tenue de la maison et des enfants étant la préoccupation primordiale d'une épouse. Une femme qui veut donner la priorité à sa carrière devrait rester célibataire. Deuxièmement, les femmes qui se marient devraient reconnaître la valeur que Dieu donne à l'éducation des enfants. Et troisièmement, puisqu'une femme mariée doit se soumettre à son époux, elle doit le consulter pour les détails qui concernent son rôle dans la maison et pour un emploi éventuel en dehors de la maison. La mère chrétienne devrait connaître le grand sentiment d'honneur et de dignité que confère l'acte de porter et d'élever des enfants pour le Seigneur. Dieu permet et interdit le divorce. Voilà une question assez sérieuse. Dieu permet, mais en même temps, il interdit le divorce. Voyons tout d'abord Saint Matthieu, chapitre 19, verset 8. Jésus leur dit, « C'est à cause de leur dureté, de la dureté de votre cœur, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. » Et voyons, 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 10 et 11. J'ai dit 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 10 et 11. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Que le mari ne répudie pas sa femme. Bob, qui est encore marié, il vit avec Sue, sa secrétaire, qui est elle-même divorcée. Ils ne veulent pas se marier. Elle veut garder la liberté de le quitter sans préambule s'il se présente quelqu'un qu'elle aimera davantage que lui. Et lui ne désire pas régulariser sa situation, et cela afin d'échapper aux tracasseries d'une procédure de divorce, bien qu'il soutienne généreusement son épouse, qui est Marie. Celle-ci a le cœur totalement brisé, car elle aime vraiment Bob, et elle espère son retour et de vivre à nouveau avec lui. Mais le conseiller, on peut dire qu'elle voit régulièrement, a parlé à Bob et il est convaincu qu'à moins, on peut dire, à moins d'un miracle, Bob ne reviendra jamais. Afin de veiller à la stabilité de ses enfants, Marie est prête à divorcer, mais elle a peur de déplaire au Seigneur en agissant ainsi, car elle a lu les commandements de la Sainte Bible interdisant le divorce. Son pasteur lui a dit, « Il est vrai que Dieu n'aime pas du tout qu'on divorce. » Mais il n'aime pas non plus ce que votre mari est en train de faire. Et vous lui facilitez la tâche en ne réagissant pas du tout. Je pense que vous devriez immédiatement demander le divorce. Voyons cela de plus près. Dieu permet le divorce, premièrement. Jésus a fait référence à Deutéronome, chapitre 24, versets 1 à 4, où Moïse, inspiré, autorise la continuation de la pratique du divorce en Israël, stipulant seulement que deux personnes ne devaient pas se remarier ensemble après avoir pris chacun un autre compagnon. Deuxièmement, Dieu a permis la possibilité de divorcer quand il a donné à Israël une lettre de divorce après un adultère spirituel prolongé, selon Jérémie chapitre 3, verset 8. Troisièmement, Dieu a commandé aux Israélites de divorcer et de rejeter les jeunes femmes païennes qu'ils avaient épousées. Esdras, chapitre 10, verset 11. Quatrièmement, Jésus a dit que le mariage ne peut être dissous sauf pour infidélité, selon saint Matthieu, chapitre 19, verset 9. Et cinquièmement, l'apôtre Paul a dit aux compagnons croyants de quelqu'un qui ne l'est pas, Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Et vous pouvez noter 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 15. Donc, premièrement, Dieu interdit le divorce. Premièrement, Dieu, par la bouche de Malachie, déclare haïr le divorce parce que un homme qui répudie sa femme la couvre de violence. Chapitre 2, verset 16. Deuxièmement, Jésus a dit que Dieu destine un homme à prendre une femme et que cette union exclusive doit durer pour la vie, selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 6. Troisièmement, l'apôtre Paul dit qu'un couple chrétien ne doit pas divorcer. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 10 et 11. Et quatrièmement, l'apôtre Paul enjoint les croyants mariés à ne pas divorcer d'avec leurs compagnons non-croyants. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 12 à 14. Explication. Le Seigneur Jésus a montré que Dieu permet le divorce dans certaines situations en faisant référence au fait que Moïse, sous la direction de Dieu, a établi des lois pour le divorce et le remariage. L'apôtre Paul incite les chrétiens à travailler dur pour préserver leur mariage. Il enseigne même aux croyants mariés, à des non-croyants, à rechercher l'idéal exprimé par Jésus qui se trouve dans saint Matthieu, chapitre 19, versets 4 et 5. Donc, une union qui doit durer pour toute la vie. Le divorce est autorisé cependant qu'à l'un des deux parties commet l'adultère ou quand la personne non-croyante demande le divorce. Le mot « séparé » dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 15 vient de « chorizo » qui est le terme technique presque toujours employé pour désigner le divorce. Voyons la résolution. Dans l'intention de Dieu, le mariage est une union de deux chairs pour la vie. Il perçoit donc le divorce comme étant une violation de son idéal. Mais dans sa miséricorde, il autorise le divorce quand l'un des partenaires commet l'adultère ou quand le compagnon non-croyant d'un chrétien demande à divorcer. Application. Nous devons consacrer beaucoup de temps et d'efforts à faire de notre mariage ce que Dieu veut qu'il soit. Nous devons rechercher l'aide de Dieu et de conseillers croyants. Donc, nous devons pas seulement rechercher l'aide de Dieu, mais nous avons aussi le droit de rechercher les conseillers croyants pour aider à réparer un mariage qui souffre beaucoup. Nous devons être ouverts au pardon, c'est clair, et au rétablissement quand un mariage a été rompu par cause d'infidélité ou même de divorce. Voyez-vous, le divorce est le dernier recours lorsque un partenaire a commis l'adultère, et la réconciliation est toujours et devrait toujours être possible. Voyons maintenant, Dieu interdit et permet le remariage après le divorce. Nous prendrons premièrement Saint Luc chapitre 16 verset 18. Là il est dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Saint Luc chapitre 16 verset 18. Et maintenant, prenons 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 27 et 28. Là, il est dit, « N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche donc pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas. » Je répète, n'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas de femme. Et dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas, selon 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 27 et 28. Prenons Patty. C'est une femme divorcée et elle a 3 enfants en bas âge. Son mari s'est séparé d'elle pour épouser une femme avec qui il avait une liaison depuis longtemps. Patty a rencontré un homme célibataire à son église. Il est prêt à l'épouser et même à adopter ses enfants. C'est un chrétien affirmé et il a un très bon emploi. Patty hésite parce qu'elle a appris que la Bible commande aux personnes divorcées de ne pas se remarier. Cependant, son pasteur lui affirme qu'elle et son amie ont bel et bien le droit de se marier. Donc, Dieu interdit le remariage, nous est-il dit. Premièrement, des personnes qui se remarient après un divorce commettent en quelque sorte l'adultère. Saint Luc chapitre 16 verset 18. Deuxièmement, une femme qui divorce et se remarie alors que son ancien époux est encore en vie est qualifiée d'adultère. Romains chapitre 7 versets 1 à 3. Et troisièmement, une femme qui quitte son mari doit rester seule ou se remarier avec lui. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 10 et 11. Une autre version nous dit que Dieu permet le remariage après un divorce. Premièrement, il est vrai qu'à l'origine, la sentence contre l'adultère était la mort. C'est écrit dans le Lévitique chapitre 20, verset 10. Et la veuve ou le veuf avait le droit de se remarier. 1 Corinthiens 7, verset 39. Et puis, quand Dieu a épargné la vie de l'infidèle en autorisant le divorce, il a autorisé le conjoint innocent à se remarier. Deuxièmement, quand Moïse a légiféré sur les pratiques essentielles du divorce, il a inclus la possibilité du remariage pour les divorcés, selon Deutéronome, chapitre 24, versets 1 à 4. Troisièmement, d'après l'hypothèse vétérotestamentaire qu'un divorce justifié ouvrait droit à un remariage, la déclaration de Christ présentant l'immoralité sexuelle comme motif de divorce implique donc le droit au remariage pour le conjoint divorcé, selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 1 à 9. Quatrièmement, l'apôtre Paul déclare qu'un homme qui n'est pas lié à une femme, probablement pour cause de mort ou de divorce, ne serait pas coupable en se remariant. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 27 et 28. Et cinquièmement, l'apôtre Paul dit aux chrétiens mariés, à des non-croyants, qu'ils sont délivrés des liens du mariage si leur conjoint obtient le divorce. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 15. Voyons les explications. Le récit de Luc relate les paroles de notre Seigneur en ce qui concerne l'interdiction à la fois pour le divorce et pour le remariage après un divorce. Mais dans saint Matthieu, chapitre 19, verset 9, nous voyons que Jésus y fait une exception dans le cas où l'une des parties est infidèle sur le plan sexuel. Saint Luc n'a pas fait mention de cette exception, pensant probablement qu'elle était acquise par tous les lecteurs de ce premier demi-siècle. La loi juive, comme la romaine, autorisait le divorce et le remariage dans les cas de péché sexuel. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 26 à 28, l'apôtre Paul incite les personnes non mariées à le rester à cause de la nature des temps. Mais il continue en disant que ceux qui sont décidés à se marier ne commettent pas un péché. Résolution. Dieu autorise donc le remariage après un divorce quand l'un des partenaires a commis l'adultère ou que le conjoint non sauvé a demandé et a obtenu le divorce. Cependant, si un divorce est obtenu pour une autre raison, Dieu interdit le remariage. Application. Dans un divorce pour cause d'infidélité, la partie innocente a le droit de prendre un nouveau conjoint, mais elle doit rester sensible à l'idée d'un remariage avec l'ancien compagnon s'il est chrétien et s'il montre vraiment un repentir sincère. Les chrétiens divorcés pour cause d'incompatibilité doivent rester seuls et essayer de rétablir en quelque sorte leur ancienne relation. Si après ce genre de divorce, un des partenaires choisit un nouveau conjoint, l'autre a la possibilité de se remarier. Un chrétien divorcé pour cause d'adultère ou parce que son épouse non-croyante a obtenu le divorce peut se remarier, mais seulement à une chrétienne. Tous les divorcés devraient considérer sérieusement l'option du célibat, selon 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 26 et 27. La spiritualité est exaltée par le mariage. Mais que penser du célibat? Voyons cela de plus près. Notez Saint-Luc, chapitre 16, verset 18. Quiconque répudie sa femme et épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. J'ai dit Saint-Luc, chapitre 16, verset 18. Prenons maintenant 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 27 et 28. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 27 et 28. Au IVe siècle, nombre de chefs d'église croyaient que les personnes choisissant le célibat avaient une vie spirituelle beaucoup plus élevée que les personnes mariées. Ils se mirent à exalter le célibat, idéal pour ceux qui étaient des serviteurs de l'église. En conséquence, l'Église occidentale établit des ordres de célibat des moines, des prêtres ainsi que des nonnes. L'Église orientale, les anabaptistes, luthériens, calvinistes, plaident généralement pour le mariage, même pour les chefs religieux, car ils croyaient que le mariage exaltait plutôt la spiritualité chez la plupart des gens. Alors, voyons de plus près qui avait vraiment raison. La spiritualité est exaltée par le mariage, premièrement. Bien qu'un homme et qu'une femme soient des êtres complets en eux-mêmes, ils sont enrichis par le mariage, selon la Genèse, chapitre 2, versets 18 à 25. Deuxièmement, un bon compagnon est considéré comme un don de Dieu, selon le proverbe, chapitre 5, verset 18, chapitre 18, verset 22, ainsi que le chapitre 19, verset 14, j'ai dit des proverbes. Troisièmement, le mariage favorise le développement du caractère des chrétiens en leur donnant l'occasion unique de développer un amour altruiste et une soumission mutuelle. Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 30. Et quatrièmement, le mariage atténue la tension qui est due au combat interne contre d'illicites désirs sexuels. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 9. La spiritualité, disent certains, est exalté uniquement par le célibat. Premièrement, pour certains, le célibat est un don qui a une valeur spirituelle, c'est vrai. Saint Matthieu, chapitre 19, verset 12. Deuxièmement, pour certains, il est mieux de ne pas se marier. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 8. Troisièmement, un célibataire peut se concentrer plus entièrement sur le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 32 à 34. Et quatrièmement, les célibataires peuvent se trouver à l'abri de certaines difficultés physiques, émotionnelles et matérielles qui sont associées au mariage et à la famille. Selon 1 Corinthiens chapitre 7, versets 28 à 35. Explication. Dans la Genèse, au chapitre 2, verset 18, Dieu dit qu'il n'est pas bon pour un homme de vivre seul. Il a donc donné une femme à Adam. L'auteur des Proverbes confirme les bienfaits du mariage en disant qu'une bonne épouse est un indice de la faveur de Dieu. Chapitre 18, verset 22. D'autre part, l'apôtre Paul déclare que ceux qui ne sont pas mariés devraient considérer sérieusement l'option de rester célibataire, car dans cet état, ils peuvent davantage se concentrer sans aucun partage, uniquement sur le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 32 et 33. Résolution. La plupart des êtres humains peuvent servir Dieu avec plus d'efficacité, premièrement, parce que Dieu les a créés avec un besoin inhérent d'union. Certains, cependant, reçoivent de Dieu le don spécial de n'être pas tourmentés par les besoins sexuels et l'achèvement émotionnel que permet le mariage. Ils peuvent donc utiliser leur célibat pour servir Dieu dans un état d'esprit entier et sans empêchement, pour autant que leur cœur, leur être tout entier, reste pur et intègre. Application. Les jeunes qui sentent pouvoir mieux servir le Seigneur en étant célibataires ont probablement le don du célibat et devraient songer à demeurer seuls. Ceux qui ne sont pas mariés parce qu'ils n'ont pas trouvé la personne idéale n'ont pas spécialement le don du célibat, je ne crois pas, mais ils peuvent continuer de croire que le Seigneur leur enverra le conjoint idéal ou leur donnera une force interne pour demeurer dans leur état actuel. De toute façon, il faut qu'ils remettent cela aux pieds du Seigneur dans la prière. Donc ceux qui aspirent au mariage et trouvent un potentiel partenaire pour la vie doivent bien entendu procéder dans la prière et la précaution, mais en ayant l'assurance que, se mariant dans le Seigneur, selon 1 Corinthiens 7, verset 39, ils ont absolument la bénédiction de Dieu. Tandis que le mariage fournit un expédient pour le comportement sexuel, il est également la voie par laquelle se forment les familles, par laquelle s'exprime l'amour et s'enrichit la vie. Bien que certains avantages spirituels accompagnent le célibat, le plus grand bienfait pour la plupart des êtres humains s'obtient évidemment par le mariage. L'apôtre Paul émet la suggestion que les aînés doivent être des hommes mariés, selon 1 Timothée, chapitre 3, verset 2, et il dépeint le mariage comme étant une relation entre Christ et l'Église, selon Éphésiens, chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 33. Chers amis, nous allons terminer cette première partie par la prière. Seigneur, accorde-nous, ô Dieu, la grâce d'être de courageux et constant imitateur de ton Fils bien-aimé jusque dans ses souffrances. Donne-nous l'héroïsme du disciple et du confesseur. Ne permets pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Aide-nous à surmonter fidèlement tous les assauts et tous les obstacles, en sorte que nous puissions être un jour trouvés dignes de porter la couronne de la vie éternelle. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et à demain matin, pour la deuxième partie. À bientôt donc, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.